parce qu'on s'est pas assez fait expliquer pourquoi qu'on est en Afghanistan. C'est, on comprend très bien les enjeux, c'est parce qu'on s'y oppose radicalement.
Mentionner les massacres que les soldats onisiens ont commis contre le peuple haïtien, surtout le peuple des bidonvilles.
Sécurité, ce qui arrive, c'est que ça permet au gouvernement canadien de détenir quelqu'un sans charge, sans accès à la preuve.
On oublie souvent les questions de base qui définissent ce conflit. Ce conflit, c'est avant tout un conflit sur la terre.
Nous gardons nos acquis sur la question de l'avortement. Alors, c'est pour ça que je suis ici avec ma fille, la belle fille, qui la relève. On continue.
Queremos mandar un saludo para los radioescuchas de parte de los zapatistas.
Nouvelle émission de En bas à gauche sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Il est 9h du matin.
Écoutez en bas à gauche sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Aujourd'hui, au menu, nous aurons une entrevue avec Gabriel Nadeau-Delassé qui va nous parler des enjeux reliés à l'hausse des tarifs à l'université. On aura aussi une chronique culturelle que Blandine va nous présenter et on aura une entrevue avec Barbara Legault pour faire un retour sur la marche mondiale des femmes. Bienvenue, restez avec nous.
En bas, à gauche. Enjeux et mobilisation.
Nous sommes en compagnie, en fait, nous avons au téléphone en direct Gabriel Nadeau, responsable des communications à l'AC, Association pour une solidarité syndicale étudiante. Gabriel, tu m'entends, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, très bien, merci. Gabriel, la semaine dernière, en fait, jeudi 21 octobre, on a assisté à une mobilisation de quelques 500 étudiants et étudiantes qui étaient appelés par l'AC. Est-ce que tu peux nous expliquer quels étaient les enjeux de la mobilisation?
En fait, les étudiants et étudiantes là, sur l'appel de l'AC étaient mobilisés jeudi dernier pour deux raisons précises. Premièrement, réclamer à la ministre de l'Éducation, Lynn Beauchamp, l'annulation immédiate de la rencontre des partenaires universitaires. Et deuxièmement, réclamer, dans le fond, que la ministre s'engage maintenant à geler les frais de scolarité à l'hiver 2012. À l'automne 2012, oui, effectivement.
La première chose que tu mentionnais, la rencontre des partenaires en éducation, est-ce que tu peux nous parler plus de ce qu'il s'agit? C'est qui, ça, ces partenaires-là?
En fait, c'est ça. Dans le dernier budget, Raymond Vachand, le ministre des Finances, annonçait une nouvelle hausse des frais de scolarité à l'automne 2012. Soit il n'en mentionnait pas ni les modalités ni le montant exact, puis annonçait la tenue d'une consultation des partenaires universitaires à l'automne afin, dans le fond, justement, de déterminer comment et de combien est-ce que les frais de scolarité allaient être haussés. La ministre de l'Éducation, le 22 septembre dernier, a justement annoncé qu'il y aurait une rencontre qui se tiendrait à la fin novembre qui porterait, selon ses mots, sur le financement et la performance des universités. Donc, dans le fond, c'est une rencontre qui est convoquée. On ne connaît pas encore la liste des organisations invitées. Là, on s'attend, dans le fond, que ça regroupe les principales associations étudiante nationale, les entreprises privées, le patronat, les syndicats, etc. Et puis ces gens-là seraient convoqués, comme je l'ai dit, pour discuter des différentes modalités de hausse des frais de scolarité en automne 2012.
Et est-ce que l'AC a été invité à cette rencontre?
Comme je l'ai dit, le ministère n'a pas encore procédé à aucune invitation. Donc, il n'y a aucune organisation qui sait exactement si elle est invitée ou pas. On ne sait pas non plus la date exacte de la rencontre, ni la teneur exacte des discussions. Le ministère garde ça sous embargo pour le moment.
Et puis, si l'AC est invité, pensez-vous participer?
Dès la sortie du budget, l'AC a annoncé clairement ses couleurs. On ne participera pas à cette rencontre-là. On va la boycotter. Et pour une raison très simple, de l'aveu de la ministre elle-même, cette rencontre-là ne vise qu'à déterminer de comment est-ce qu'on va augmenter les frais de scolarité. Puis pour l'AC, c'est clair qu'on refuse de négocier une hausse des frais de scolarité. Pour nous, les frais de scolarité ne doivent pas augmenter. Ils doivent être immédiatement gelés parce que nous, notre but, c'est de s'en aller vers une université de plus en plus accessible et de tendre à terme vers la gratuité scolaire.
Puis on voit qu'en ce moment, c'est loin d'être le cas. En fait, on s'en va pas vers la gratuité. Le mois dernier, en septembre, il y a deux études qui sont sorties puis qui étaient assez marquantes au sujet de l'endettement étudiant et au sujet de l'augmentation des frais de scolarité. Je me réfère à une étude de Statistique Canada qui est sortie en fin septembre 2010, puis qui démontrait qu'au premier cycle universitaire, dans tout le pays, là, au niveau canadien, un étudiant ou une étudiante du premier cycle payait en moyenne 5 138 $ en frais de scolarité pour 2010-2011, soit l'année actuelle, comparativement à 4 940 l'année précédente. Donc, il y a déjà une hausse des frais de scolarité.
Tout à fait. Ça, c'est pour la situation canadienne qui, comme on le sait, est très catastrophique. Il y a même plusieurs provinces canadiennes qui, de plus en plus, commencent à réduire leurs frais de scolarité parce que ces provinces-là se rendent compte de l'impact catastrophique qu'ont eu les hausses des dernières années sur l'accessibilité. Mais au niveau québécois, ça va pas mieux. Je veux dire, on subit les effets d'un dégel qui est annoncé en 2007, qui, selon une étude du ministère de l'Éducation lui-même, va rejeter en 2012 entre 6 000 et 13 000 étudiants des bancs d'université. Évidemment, ce ne sont pas les 6 000 à 13 000 plus riches qui ont été exclus, mais bien les 6 000 et 13 000 plus pauvres. Donc, l'accessibilité aux études est déjà grandement compromise au Canada et au Québec, que ce soit, comme je l'ai dit, par la hausse des frais de scolarité ou même par la hausse des frais institutionnels obligatoires qu'on appelle les frais afférents, ou même qu'on parle de la déficience là, reconnue du système là, de prêts et bourses. Le chiffre, je pense, qui est le plus frappant à cet égard-là, c'est que depuis les années 90, la facture étudiante globale a triplé. Et pendant ce temps-là, le revenu étudiant moyen a diminué de 6 %. Donc, dans le fond, les étudiants étudiantes au Québec s'appauvrissent massivement depuis les années 90, puis une nouvelle hausse des frais de scolarité, ça viendrait juste accélérer et aggraver cette tendance-là.
Quand tu parles du revenu étudiant moyen, tu te réfères autant au programme d'aide financière qu'aux petites jobines que peut trouver un étudiant, une étudiante en ce moment?
C'est le revenu total moyen, donc ça comprend toutes les sources de revenus.
OK. Sur un autre sujet, on voit en ce moment circuler un appel à une mobilisation très large en fin novembre qui est lancé par la coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics. Une coalition qui regroupe plus de 100 organisations, des organisations populaires, syndicales, communautaires, des organisations féministes et des organisations étudiantes telles l'AC. Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots cette coalition et ses revendications?
Cette coalition-là, dans le fond, a été fondée il y a presque un an, là, jour pour jour, par 9 organisations, dont l'AC, parce qu'il y avait de plus en plus de signes avant-coureurs, au fond, des attaques qui s'en venaient dans le prochain budget. Donc, c'est des organisations qui ont décidé de se regrouper pour préparer la résistance à ce budget-là. La coalition a grandi, comme tu le dis aujourd'hui, elle regroupe plus de 115 organisations. Les revendications, en tout cas, de cette année de la coalition sont très claires. La coalition exige le retrait immédiat de toutes les mesures régressives du dernier budget. Donc, on parle de la taxe santé, qu'on parle de la hausse des frais de scolarité, qu'on parle de la hausse des tarifs d'hydroélectricité, la hausse de la TVQ, etc., etc. La coalition, dans le fond, revendique le retrait immédiat de ces mesures-là. La coalition propose aussi une série d'alternatives fiscales pour, dans le fond, régler le déficit. Qu'on parle d'augmenter la participation fiscale des entreprises, dont 50% paient aucun impôt au moment où on se parle, qu'on parle d'augmenter la participation fiscale des contribuables à plus haut revenu. On sait que l'ajout de l'établissement de 10 paliers d'imposition baisserait les impôts de 87% de la population québécoise, mais pourtant générerait 1,2 milliard de dollars par année supplémentaire. Donc, le message de la coalition est très clair. Ce que la coalition dit, c'est que la richesse existe au Québec. Prenons-la où elle est, c'est-à-dire dans les poches des plus riches et des grandes entreprises. Et c'était d'ailleurs le message de la manifestation du 1er avril dernier.
Puis j'inviterai les auditeurs à consulter le site web de cette coalition, si je ne me trompe pas, www.nonalahausse.com.
C'est nonauhausse.org.
Merci. Alors, www.nonauhausse.org. Et il y a également un lien vers le site depuis le site de l'AC qu'on va nommer en dernier. Oui. Et peut-être mentionner qu'il y a énormément de documents et d'analyses d'études qui ont été publiés par la coalition.
Donc, je pense notamment à une recherche de l'Institut de recherche sur l'information socio-économique et les risques qui s'intitule La révolution tarifaire, une étude qui n'a pas été commandée par la coalition, mais que cet institut de recherche-là a publié il y a deux ou trois semaines, si je me rappelle bien, une étude qui vraiment met en lumière les effets catastrophiques que vont avoir les mesures du dernier budget sur à la fois la classe moyenne québécoise et les plus démunis. Cette recherche-là est très intéressante. J'invite tout le monde à aller la consulter. Les conclusions en sont extrêmement troublantes.
Et moi, j'inviterais les gens à consulter le document qui s'appelle « Des solutions plus équitables au plan fiscal et plus justes au plan social » qui rassemble en fait toutes les contre-propositions au budget. Et c'est un document que j'ai trouvé très intéressant parce que ça souligne le fait que les choix économiques du gouvernement en ce moment pour réduire son déficit sont hautement idéologiques, s'inscrit dans un courant de droite de néolibéralisme. Et la coalition a produit des études pour démontrer qu'il y a d'autres possibilités, qu'il y a d'autres actions qui peuvent être prises par le gouvernement pour réduire son déficit, pour renflouer les coffres de l'État et pouvoir soutenir de façon adéquate les services sociaux.
C'est clair, puis je pense que tu as mentionné quelque chose de très important à réitérer plus que jamais, c'est-à-dire que les choix budgétaires qui sont effectués par le gouvernement actuel sont avant tout des choix politiques, des choix idéologiques. Ce n'est pas la fatalité qui fait qu'on est dans la situation budgétaire actuelle. La situation budgétaire actuelle a été créée par des choix politiques précis et si on veut la résorber, ça va passer par des choix politiques. Selon nous, c'est évidemment pas ceux qui sont mis de l'avant actuellement par le gouvernement libéral.
Alors, Gabriel, peux-tu nous rappeler la mobilisation qui est appelée par la coalition?
Donc, voilà. La coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics appelle à une mobilisation large le 23 novembre prochain en face du Conseil du Trésor. C'est une action, une manifestation, évidemment. On va manifester devant, dans le fond, les portes du Conseil du Trésor. Je peux pas donner plus de détails pour le moment, mais on invite là, l'ensemble de la population québécoise à être présente pour montrer au gouvernement Charest que l'été n'a pas fait fond de notre détermination, qu'on se rappelle toujours de son budget et qu'on réclame toujours qu'il annule ces mesures-là. C'est en regardant la pression comme ça, avec des actions régulières, qu'on peut encore garder espoir de le faire reculer dans le prochain budget.
Bien, alors on sera tous présentes le 23 novembre. Et puis, pour l'automne, l'hiver, est-ce que l'AC a un plan d'action? Est-ce qu'il y a d'autres actions que l'AC annonce?
Le prochain rendez-vous de mobilisation pour ce qui est de l'AC, outre l'action de la coalition 23, c'est à la fin novembre, lors de la rencontre des partenaires universitaires. Comme je le disais plus tôt, l'AC a annoncé qu'elle boycotterait cette rencontre-là. Mais non seulement qu'elle la boycotterait, mais aussi qu'elle organiserait une manifestation monstre visant à perturber la tenue de cette rencontre-là, avec comme objectif clair d'annuler sa tenue pour une raison très simple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais le répéter, cette consultation-là, en fait, n'en est pas une, ne vise qu'à donner un vernis de légitimité politique à une décision politique qui depuis longtemps prise dans l'agenda libéral. Donc, pour nous, il est hors de question de participer à cette pièce de théâtre-là et de jouer le rôle que la ministre Beauchamp veut bien nous donner. On va manifester devant cette rencontre-là. On invite l'ensemble des étudiants et étudiantes à y participer. La coalition a officiellement appuyé la manifestation et on va inviter l'ensemble de la population québécoise à se joindre à nous pour envoyer un message clair à la ministre de l'Éducation que l'éducation est un droit et que ce droit-là, on n'ira pas le négocier. On va l'exiger dans la rue.
Alors, Gabriel, on te remercie beaucoup. Est-ce que, en dernier, peux-tu nous donner le site web de l'AC pour avoir plus d'informations?
Donc, pas de problème. Si vous avez de l'information sur les campagnes de l'AC, sur les actions à venir, si vous cherchez de l'information sur les enjeux liés à l'éducation, le site est très simple, www.afse-solidarité-sans-accent.qc.ca.
Alors, Gabriel, merci. Je te souhaite une bonne journée.
Merci beaucoup. Bonne journée à toi.
C'était Gabriel Nadeau, responsable aux communications de l'AC, Association pour une solidarité syndicale étudiante. Avant de passer à notre prochaine chronique, une critique culturelle du procès des cinq, nous allons écouter une chanson de Jean Lessard, Pauvre chien.
De ces écoles de la vie où l'on ne finit plus d'apprendre. La séduction, le daiquiri, comment s'impliquer pour surprendre. Un gros monstre naît aussi facilement qu'un enfant. Décision au sommet, quelques principes et manque de temps. Il y a toujours un détail qui nous échappe quand on est grand. Une virgule se trompe dans un bail et on massacre des tas de gens. La bonne idée devient un commerce, un grand empire, une carapace contre la vue de la misère qu'un don de charité efface. Bon businessman, ce n'est souvent qu'une impression. Nous pauvres chiens, on est toujours leur petit champ. Il n'y en a pas un qui ne vaille pas, la peine qu'on s'arrête à son cas. Anciens gauchistes convaincus, leurs culottes dépassent vraiment plus. Ils sont les plus grands collabos de l'ordre établi qui existe sous prétexte qu'ils sont impartiaux. C'est le changement qu'ils honnissent. Ils traiteront toujours de tout, restant les spécialistes de rien. Ils sont les appendices malades d'un organisme politicien. C'est leur chèque de paye qu'ils épousent, jamais le pourquoi du comment. Rapport de fait et bill de news, c'est pas de l'info, c'est un show combat. Bon journaliste, ce n'est souvent qu'une intention. Nos pauvres chiens, on avale tout sous perfusion. Ou par conviction, ils veulent revêtir l'uniforme. Ils sont bourrés de bonnes intentions qui se répéteront pour la forme. On ne dort bien que dans l'habitude, alors habituons-les aux ordres. Ils s'en feront des certitudes, alambiqués pour pas démordre. La justice sera leur grande sœur, le criminel sera toujours noir, le militant agitateur, l'esprit prend des chemins bizarres. Ils seront les chiennes gardes de la loi, parfois comme leur père, leur grand-père, mais ils taperont toujours leurs frères si on leur en donne l'ordre. Corps policier, ce n'est souvent qu'une érection. Nous pauvres chiennes, on a toujours peur comme des cons. Que l'intention joue l'impression, y a plus de place que pour ego. Myosotis, c'est coquelicot. On lève des monuments aux morts et on laisse moisir les vivants. Si la plaie bat tellement trop tard, c'est peut-être qu'elle croit les puissants. Qu'elle se taire, qu'elle se gèle, qu'elle célèbre ce qu'elle veut. Plus rien de trop beau l'interpelle. Elle gardera la famille qu'elle. L'ambition vit l'érection, que l'intention joue d'impression. Plus de projets, plus de lendemain, chacun ses barres et son lapin. La vérité, ce n'est qu'un flou qui ne rime à rien. Nous pauvres fous, on ne croit toujours que comme des chiens. La liberté, ce n'est qu'un rêve qui ne rime à rien. Nous pauvres fous, on ne croit toujours que comme des chiens. Pauvres chiens. Pauvres chiens.
C'était Jean-François Lessard avec la chanson « Pauvre chien ». Vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec l'émission « En bas à gauche ». Alors, on va laisser la parole à Blandine pour une critique culturelle qui porte sur le procès des cinq réalisé par les apartistes.
En bas à gauche, chronique culturelle.
Alors, c'est cette fameuse chronique culturelle. Alors, c'est une chronique culturelle où je vais vous parler de la pièce de théâtre, mais je vous en parlerai pas trop parce que ça serait un peu cruel puisque la pièce a été jouée la semaine passée. J'ai eu le plaisir d'aller la voir et elle ne sera pas rejouée pour l'instant. Par exemple, elle sera disponible sous peu sur Internet, sur le site des apartistes qui feront en plus une, vous pourrez la voir pour une modeste contribution qui permettra de financer le fonds de solidarité et de défense avec les personnes arrêtées au G20. Alors, le procès des cinq, les cinq étant Chartrand, Vallière, Gagnon, Lemieux et Larue Langlois. Donc, ces cinq personnes militantes qui, dans la foulée des enlèvements de James Richard Cross et de Pierre Laporte par le Front de libération du Québec, FLQ, ont été arrêtés dans le cadre de la loi des mesures de guerre qui avait été proclamée le 16 octobre 70. Alors, le procès en tant que tel commence le 8 janvier 71. Et alors là, dans le livre qui est publié chez Lux Éditeur, qui est en fait... comme le soulignaient les apartistes, il y a absolument rien qui a été rajouté. C'est ça qui est merveilleux. Ils sont arrivés sur scène et ils ont dit... Vous allez croire qu'on en a rajouté, vous allez croire qu'on a bonifié la situation, mais ce n'est pas le cas. Et donc les apartistes nous expliquent que ce texte donc qui a été remis ensemble est directement du copier-coller des 600 pages de transcripts du procès. C'est-à-dire que ça a été publié la première fois en 71 pour financer la lutte pour les prisonniers et prisonnières politiques de 70. Et donc, ils ont pris des extraits de ce procès. Alors, ce qui frappe à l'œil, c'est de voir le type de conversation qui était possible avec le juge. Alors, on se demande d'abord, est-ce que c'était comme ça dans le temps, en 70? Ça avait l'air bien le fun de parler à un juge. Et on se rend compte que c'est aussi les personnes personnages, les personnes, donc dont Michel Chartrand, qui évidemment, on s'en doute, est tout à fait éloquent. Alors il y a quelques citations, quelques scènes incroyables, comme le juge qui décide, ayant utilisé tous ses recours d'outrage à magistrat contre les cinq, qui décide de faire un huis clos, donc de vider la salle. Là, on est rendu à peu près en février, donc on se rappellera, là, ils ont été détenus le 16 octobre le matin, leur procès a commencé le 8 janvier, là on est rendu au mois de février, et le juge décrète un huis clos. Et alors là, on entend la tirade officielle de Chartrand, qui fait juste dire « Eh bien, s'il n'y a plus de public, monsieur le juge, vous avez perdu votre accusé. Moi, je refuse de me faire juger, pas de public. » Et il est retourné dans sa cellule. Alors on voit les cinq, en fait, les quatre, beaucoup, là, qui parlent le plus, puisque un était représenté par un avocat, malmener le juge et faire le procès de la justice canadienne, en fait. Et il critiquait clairement le fait que c'est pas un juge, c'est pas une justice impartiale qui les juge, mais bien le Parti libéral du Québec comme du Canada, et donc faire voir le caractère politique, puisque leur accusation c'est conspiration séditieuse, et le juge va tenter tout le long de dépolitiser l'affaire, c'est-à-dire de faire comme si une conspiration n'avait aucun rapport avec la politique. Alors, véritable pièce de théâtre, le procès des cinq contient les extraits les plus significatifs, puis ça finit au 11 février 1971. Alors, je suis navrée, écoutez pas la suite, baissez votre radio, bouchez-vous les oreilles, je vais vous vendre le punch. Mais pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire, ça sera pas une grande nouvelle, et ça ne fait rien perdre à l'intérêt de la pièce et du texte. C'est que finalement le juge, alors il reconnaît le bien fondé de la loi des mesures de guerre, puisque les accusés lui demandaient de la remettre en question. Il en reconnaît le bien fondé, mais il admet qu'il n'y a pas de preuves, les preuves qui sont avancées jusque-là sont à peu près impossibles pour identifier un crime précis, puisqu'en fait on les accuse de l'ensemble de leur œuvre, politique. Alors c'est une bonne lecture à avoir en ce mois d'octobre. On a beaucoup entendu parler de octobre 70, puisqu'on en fêtait les 40 ans. Puis on va avoir une petite pause publicitaire, et après ça, on va se retrouver avec François Baillargeon, qui a une maîtrise en histoire du Québec, pour refaire un petit peu le contexte historique. Alors pour ce qui est du procès des cinq, c'est donc aux éditions Lux Éditeur. Vous pouvez avoir plus de détails sur leur site web, www.luxediteur.com. Alors ça fait partie de leur dernière création. Alors le titre, Le procès des cinq, avec une préface de Louis Hamelin. On vous laisse avec cette petite pause publicitaire et on vous retrouve dans un instant pour la suite de la chronique culturelle à En bas à gauche sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM.
Au Venezuela, dans l'immense bidonville de Carapita à Caracas, plus de la moitié des 90 000 habitants ont moins de 30 ans et ils arrivent à peine à survivre. Des agents tentent de les recruter pour le commerce de la drogue et la violence est palpable. Le père Macao, missionnaire de la Consolata, veut procurer aux jeunes un endroit pour leur offrir des sessions sur les droits de la personne, les effets néfastes de la drogue, la liberté, la démocratie, la bonne nouvelle. Pour réaliser ce projet, le Père a besoin de votre aide. N'hésitez pas à faire un don. Faites-le dès maintenant en composant le 514-334-1910, 334-1910.
Avez-vous reçu votre autocollant Prudence au volant des amputés de guerre? Apposez-le sur votre voiture, votre motocyclette, votre bateau ou votre motoneige. En fait, là où vous désirez véhiculer le message Prudence au volant. Commandez-le sans frais au 1-800-250-3030 ou en visitant le site amputedeguerre.ca.
Les conducteurs et les amputés de guerre, de concert pour promouvoir la prudence au volant.
Ne manquez pas Voyages musicaux Bienvenue à Da Tong.
Nhâm ngọt Da Tong.
Une émission de découverte musicale de Montréal
à Hong Kong,
à Shanghai, en passant par le monde entier.
Avec Simon Hong Kong
et Sabina Amandara, tous les mardis soirs de 22h30 à 23h30 sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM.
Le meilleur de l'actualité communautaire, locale et internationale est à Radio Centre-Ville. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.
Et donc sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, vous êtes de retour avec la chronique culturelle. Et nous sommes donc en onde avec François Baillargeon qui a une maîtrise en histoire du Québec et donné une conférence vendredi passé à la maison Normand Béthune. Et donc, on va lui poser quelques questions sur les 40 ans de la crise d'octobre. Alors, bonjour François. Bonjour
oui.
François.
Oui.
Oui, on a petit problème de téléphone. Alors merci d'être avec nous ce matin.
Merci à vous.
Donc on t'a invité aujourd'hui pour nous donner un petit peu une perspective de l'héritage de la crise d'octobre et de tous ces événements-là et aussi de quel point de vue on peut avoir dessus aujourd'hui au Québec en 2010 puis un point de vue un peu alternatif sur tout ce qu'on a pu voir dans les médias ces derniers jours.
Ce que je vous propose, c'est une petite rétrospective du FLQ dans son ensemble. Parce que le FLQ, selon moi, ce sont déjà trois lettres qui contredisent bruyamment l'idée reçue, selon laquelle, durant les années 60, la révolution au Québec est restée tranquille. La crise d'octobre en 70 a un petit peu contribué à rapetisser la mémoire qui nous est restée du FLQ, à l'aplatir là, dans un seul événement de ces quelques jours d'octobre. Mais en fait, pour bien saisir l'importance du phénomène, il faut se rappeler que le FLQ, c'est pas moins de 10 ans de violence politique, tout près de 10 ans de violence politique. En fait, ce sont plus précisément là, des dizaines, voire des centaines d'explosions, de bombes, parfois désamorcées, des braquages de banques, des vols d'armes. L'activité du FLQ a commencé en fait à la fin de l'hiver 1963. Il est émergé dans un contexte de montée du nationalisme québécois, qui était moins conservateur qu'autrefois, plus revendicateur. Un nationalisme qui s'exprime aussi dans toutes les couches de la société. Le Parti libéral au pouvoir depuis 1960, avec Le Sage et Lévesque, a entrepris plusieurs grandes réformes pour donner plus d'ampleur à l'État provincial, notamment pour appuyer le développement d'une bourgeoisie francophone. Mais il y a une partie de plus en plus grande des nationalistes de l'époque qui en viennent à penser que la nation québécoise pourrait jamais traiter d'égal à égal avec les anglo-saxons sans avoir son propre État souverain. C'est le début du mouvement nationaliste indépendantiste qu'on connaît encore aujourd'hui avec le Parti québécois. À cette époque-là, c'est le projet que se s'est donné le Rassemblement pour l'indépendance nationale, le RIN, qui est fondé en 1962. Alors, il y a quelques jeunes militants, membres du RIN, qui veulent accélérer la marche là, du mouvement de libération nationale en déployant une propagande armée. Ils mettent sur pied une organisation clandestine, le FLQ, et amorcent une série d'attentats à la bombe contre des symboles du colonialisme anglo-saxon. Leur aventure ne dure cependant que quelques mois avant que la police ne démantèle leur réseau par une rafle d'arrestations. Il faut croire cependant que leur idée était bien de son époque, parce que le FLQ renaît rapidement de ses cendres. Pendant 10 ans, les cellules du FLQ vont se succéder, à être décimées par la police, puis remplacées par d'autres. En fait, le FLQ, c'est pas une organisation. C'est davantage un symbole, une bannière qui est de plus en plus célèbre et que différents réseaux vont s'approprier successivement, parfois même concurremment, pour reprendre un combat qui n'est pas toujours tout à fait le même. Il y a deux idées qu'on peut identifier là, comme le noyau dur de ce que représente le FLQ de son début jusqu'à sa fin. Évidemment, le projet d'indépendance nationale et l'idée selon laquelle la violence politique est un accélérateur de l'histoire. Mais au-delà de ces deux points d'unité assez restreints, le programme politique des FLQistes a beaucoup changé à travers les années 60. Les premiers réseaux du FLQ sont surtout des nationalistes radicaux. Leur combat est avant tout anticolonial et c'est le combat autant que possible de toute la nation. Leurs cibles, ce sont l'armée canadienne, Post-Canada, des édifices gouvernementaux canadiens, Westmount, les grandes compagnies de chemin de fer, bref, des symboles de la domination du capital anglo-saxon et de l'État fédéral. C'est en 1965, avec l'avenue de Pierre Vallière et Charles Gagnon, qui sont sans doute les deux figures là, les plus intéressantes du mouvement, qu'un certain FLQ s'engage de plus en plus résolument dans la direction de la révolution socialiste. Ces deux-là parlent de fonder un parti révolutionnaire qui serait capable de mener une véritable guerre de guérilla. Et leur cible n'est plus le colonialisme anglo-saxon, mais l'impérialisme américain. La libération nationale passe pour eux par l'abolition du capitalisme. Donc, ce n'est plus, c'est l'affaire dorénavant des travailleurs et non de la bourgeoisie. Leur modèle avoué à cette époque-là, ce sont Che Guevara, les communistes chinois, les communistes vietnamiens. Et le FLQ de Vallière-Gagnon, c'est en quelque sorte un mouvement pré-marxiste-léniniste qui annonce donc les années 70. Les réseaux suivants gardent une orientation progressiste. Les très nombreux attentats de la fin des années 60 avec le réseau de Pierre-Paul Geoffroy ont une forte connotation anticapitaliste en s'attaquant à des usines aux prises avec des conflits de travail ou en ciblant des chefs d'entreprise. Pendant toutes les années 60, les actions du FLQ ont essentiellement pris la forme d'une propagande armée. Les actions étaient à la fois violentes et symboliques, avec l'objectif de répercuter bruyamment des idées politiques. Mais l'offensive déclenchée par deux cellules du FLQ en octobre 70 a fait monter les enchères de plusieurs crans d'un seul coup. Donc, en enlevant, comme on le sait, un attaché commercial britannique et un ministre du gouvernement québécois, les FLQistes ont engagé avec l'État un bras de fer qui était inédit dans l'histoire de leur mouvement. Ça ressemble en fait plus à une fuite en avant. Surtout à la lumière des moyens là, dont ils disposaient pour faire face à la suite des événements. C'est d'ailleurs ce que suggérait récemment l'ex-felkiste Paul Rose dans une entrevue dans laquelle il rappelait le contexte étouffant de répression politique croissante des années précédentes qui les avait amenés, lui et ses camarades, là, à faire un grand coup d'éclat. On a souvent suggéré que c'est la mort du ministre Laporte aux mains de ses ravisseurs qui a sonné la fin du FLQ, qui a notamment aliéné la sympathie populaire. Mais en fait, c'est oublier que les actions du FLQ avaient déjà fait des victimes dans le passé, qui étaient souvent autrement plus innocentes que le ministre du Travail. En fait, le traumatisme d'octobre 70, c'est bien davantage le recours à la loi des mesures de guerre et l'arrestation sans mandat ni accusation de plus de 400 personnes. Des personnes qui étaient politiquement et socialement engagées, progressistes, mais qui n'avaient généralement aucune complicité avec les enlèvements ou le FLQ. On a alors eu un aperçu de la puissance de frappe des forces réactionnaires de la société. On a mesuré la minceur des libertés civiles pour les gens suspectés de contester l'ordre établi. Pendant plusieurs décennies qui ont suivi, la violence politique a pratiquement disparu dans l'arsenal des luttes sociales au Québec, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays. Des mouvements aux objectifs ouvertement révolutionnaires et aux ressources beaucoup plus imposantes que le FLQ sont restés cantonnés à des moyens de lutte politique légaux et ont diffusé leurs idées essentiellement par du papier. La dernière décennie a cependant vu une recrudescence des affrontements violents entre l'État et des secteurs de la population en lutte. Et sans surprise, comme à Toronto en juin passé, on a vu encore une fois la facilité avec laquelle la répression policière faisait voler en éclats les garanties démocratiques officielles. Donc je crois qu'aujourd'hui comme hier, quiconque espère apporter des transformations radicales à la société doit le faire sans illusion, sans naïveté. Et ne jamais oublier que dans un État capitaliste, l'arbitraire policier et militaire n'est jamais caché bien loin derrière la Charte des droits.
Merci beaucoup.
Bienvenue.
Merci pour cette lecture un petit peu différente là, qui justement comme tu l'introduisais nous fait croire que le FLQ c'est juste la crise d'octobre. Est-ce que tu as des références ou des lectures pour des gens qui voudraient en apprendre plus sur un point de vue alternatif et qui ont malheureusement raté la conférence de vendredi passé?
La référence de base, c'est un livre de Louis Fournier, si je me souviens bien, s'appelle « Le FLQ, un mouvement clandestin ». C'est un livre qui a été publié autour de 1980 et qui raconte dans le détail toutes les actions du FLQ de sa naissance à sa mort. Pas très analytique, mais très détaillé au niveau des faits. Sinon, il y a des recueils de textes qui ont été publiés aussi sur le FLQ. Et plus récemment, tous les écrits de Charles Gagnon de l'époque du FLQ ont été publiés.
Et donc, comme je le disais en début, si vous voulez une version, un extrait historique là, qui vous rappellera pas tout le contexte, mais qui est plutôt sympathique à lire, alors on rappelle aux éditions Lux Éditeur le procès des cinq, qui est donc un extrait du procès de Gagnon, Chartrand, Vallière et Lemieux et La Rue Langlois. Donc, aux éditions Lux Éditeur. Merci beaucoup, François, d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir.
Alors, on continue sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM. Vous écoutez En bas à gauche et on continue avec une musique féministe de genre radical, Révolte de confiance.
Les activités réalisées dans le cadre de la troisième année d'action de la Marche mondiale des femmes se sont clôturées le 17 octobre passé par une manifestation festive et combative à Rimouski. Plus de 10 000 personnes sont sorties dans la rue pour signaliser leur appui aux luttes des femmes. Barbara Legault, militante féministe de Montréal, ayant pris parti aux activités de la Marche mondiale, est avec nous pour faire un retour sur cet événement important dans la lutte des femmes et pour nous parler des luttes et des revendications du mouvement féministe du Québec. Bonjour Barbara. Bonjour Barbara.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et donc, on voulait parler un peu de cet événement qui était la Marche mondiale des femmes et qui s'était clôturée par cette mobilisation massive à Rimouski. Mm-hmm. Donc, je ne sais pas si tu peux nous présenter en général, c'était quoi l'importance de cet événement et nous rappeler brièvement l'historique de cette marche.
Oui, ben en fait, excusez-moi, j'ai la grippe. La Marche mondiale des femmes, en fait, c'est un mouvement féministe international qui vise à lutter contre le patriarcat et le capitalisme, la violence et la pauvreté, donc à différents niveaux, avec différents champs d'action, et ainsi de suite. C'est un mouvement, en fait, qui est né au Québec des suites de la Marche du pain et des roses, qui est une marche qui a eu lieu en 1995 ici au Québec, organisée par la Fédération des femmes du Québec, et qui a regroupé 800 femmes qui ont marché pendant 10 jours pour revendiquer du gouvernement du Québec des politiques qui visaient vraiment à lutter contre la pauvreté, spécifiquement la pauvreté des femmes. Donc, bref, les filles qui ont organisé la Marche du pain et des roses ont eu l'idée de dire, bon, ben nous, on a réussi à faire des gains, alors on veut organiser une marche mondiale. Et c'est comme ça que l'idée a germé. Finalement, il y a plusieurs pays qui ont embarqué. Il y a eu une première rencontre internationale en 98 et une première année d'action internationale en l'an 2000. Et il y a 156 pays qui ont participé à l'année d'action de la Marche mondiale des femmes en l'an 2000, avec plus de 2 millions de pétitions qui ont été signées, des cartes postales qui ont été envoyées et portées en main propre à l'ONU. Donc, 2 millions de pétitions qui ont été signées à travers le monde, organisées par la Marche mondiale des femmes. En 2000, finalement, suite à cet événement-là, il y avait des gens qui se demandaient, est-ce qu'on arrête là, est-ce qu'on continue? Et finalement, les militants de la Marche mondiale sur les 5 continents ont décidé qu'ils allaient, que la marche allait devenir un mouvement féministe d'action. Et donc, en 2005, ça a eu lieu la deuxième année internationale d'action de la marche. Et finalement, 2010 était la troisième année internationale d'action de la Marche mondiale des femmes, avec des actions en 2010 dans plus de 60 pays. Et des actions qui couvraient finalement différents enjeux et des champs d'action priorisés par la Marche mondiale qui sont le bien commun et l'accès aux ressources, la paix et la démilitarisation, la violence envers les femmes et l'autonomie économique des femmes et la lutte à la pauvreté. Donc finalement, ça c'est les 4 principaux champs d'action de la Marche mondiale des femmes.
Parfait. Et si tu nous rappelais quelles sont étaient les activités réalisées au Québec dans le cadre de cette Marche mondiale des femmes?
Ben, au Québec, en fait, c'est vraiment un aspect important et même fondamental du mouvement féministe, la Marche mondiale des femmes. Mm-hmm. Il y a un organe qui s'appelle la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes, qui est comme la coalition qui regroupe au-delà de 45 organisations du mouvement féministe. Donc, il y a presque tous les regroupements nationaux de groupes de femmes, il y a tous les syndicats s'y retrouvent, les comités de conditions féminines, mais aussi toutes les tables régionales de groupes de femmes. Il y a des tables régionales de groupes de femmes dans toutes les régions du Québec. Donc, tout le monde se retrouve à la Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes. Et c'est ça qui décide, c'est elles qui décident. Et donc, bref, elles ont organisé des actions de 2010. Et ce qu'on a pu voir, c'est que les actions ont été lancées le 8 mars dernier à Montréal, mais aussi partout à travers le Québec. Et c'est là qu'on a lancé les revendications de la Marche mondiale des femmes au Québec. Il y avait 8 revendications, 5 qui s'adressaient au gouvernement provincial, 3 qui s'adressaient au gouvernement fédéral. Et donc, c'est pour ça qu'on se battait, c'est pour ça qu'on marchait, et c'est pour ça qu'on va continuer à se battre, c'est pour ça qu'on va continuer à marcher. Et finalement, du 12 au 17 octobre, ça a été les actions de clôture de la marche. Il y a eu 300 actions, 300 à travers toutes les régions du Québec. Il y a 17 régions au Québec et il y en avait dans toutes les régions, y compris nord du Québec, Côte-Nord et ainsi de suite. Et ça s'est clôturé par le 17 octobre, un grand rassemblement qui a regroupé 10 000 femmes et leurs alliés à Rimouski, donc sur la, le bas, dans le Bas-Saint-Laurent, le 17 octobre, qui était vraiment la mobilisation de masse de l'année. Et donc, je ne sais pas si vos auditeurs peuvent concevoir le travail que ça peut prendre pour mobiliser 10 000 personnes à Rimouski et finalement marcher tout ensemble pour lutter pour les revendications de la Marche mondiale des femmes. On a aussi, ces revendications-là ont été présentées de différentes manières. C'est clair que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada, deux gouvernements de droite, conservateurs, qui font la guerre aux femmes, qui font la guerre aux pauvres, qui font la guerre aux immigrants, aux immigrantes, aux autochtones, aux personnes dans la rue, etc. Bref, deux gouvernements qui ne servent pas les intérêts de la majorité et qui ne vont pas améliorer nos conditions de vie. Alors, ces gouvernements-là ont fait non seulement la sourde oreille, mais ont complètement méprisé le mouvement féministe, les luttes menées par le mouvement, les mobilisations qui venaient soutenir les revendications de la Marche mondiale des femmes. Et bref, on a décidé comme mouvement féministe que si on faisait face à un tel mépris, un mépris auquel on nous a habitués dans les dernières années, parce que c'est pas la première année que le gouvernement ridiculise ou tente de discréditer le mouvement féministe, soit en ne répondant carrément pas aux revendications, en faisant juste simplement en ignorant les féministes, ou soit en répondant des choses complètement remâchées, du réchauffé, des bilans de leur gouvernement qui ne permettront pas du tout d'améliorer les conditions de vie des femmes. Alors bref, la coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes, dont j'ai mentionné les membres tantôt, avait décidé de dire, écoutez, si le gouvernement ne répond pas favorablement à nos demandes, on est prête à aller jusqu'à la désobéissance civile, puis à l'action directe non violente pour faire pression sur le gouvernement. Parce que les femmes sont en colère, parce qu'on est écœuré de se faire niaiser, parce qu'on est écœuré de se faire mépriser, autant par la gente politique que par la gente médiatique. Bref, ce qui est arrivé, c'est que le gouvernement a évidemment, effectivement, pas répondu positivement, malgré les pressions, ainsi de suite, malgré les 300 actions qui ont eu lieu dans toutes les régions du Québec entre le 12 et le 17 octobre, malgré l'annonce qu'il allait avoir beaucoup, beaucoup de milliers de personnes à Rimouski le dimanche 17 octobre. Alors, ce qu'on a décidé de faire, c'est justement de désobéir à des lois qui protègent un système qui fait souffrir la majorité de la population. Et on est allé 11 militantes de la Marche mondiale occuper le bureau de la ministre Saint-Pierre à Montréal. C'est la ministre qui est responsable de la condition féminine, mais je pense qu'elle est aussi responsable de la culture et des communications, et j'ai l'impression qu'elle considère absolument pas que c'est sa responsabilité et qu'elle s'en fiche complètement. Bref, on est allé occuper son bureau en disant « Nous, on sort pas tant qu'on n'a pas de réponse positive aux revendications qu'on porte avec des dizaines de milliers de femmes au Québec de la Marche mondiale des femmes. » Et donc, on est rentré le jeudi 14 octobre, 11 femmes, on est rentré vers 3h30 dans le bureau. Quand on est rentré, on a fait face au même mépris que la ministre et que le gouvernement Charest, que le gouvernement Harper peut exprimer à l'égard des femmes, en fait. Quand on est rentré, on a dit pourquoi on était là. Les employés, il n'y avait pas de problème. Mais au niveau du pouvoir, les cadres qui sont venus nous voir étaient d'un mépris profond. La directive qui a été donnée à l'ensemble des employés, malgré qu'on scandait des slogans, qu'on décorait le bureau avec des affiches de la Marche mondiale des femmes, qu'on distribuait des tracts sur tous les bureaux, les ordinateurs, les imprimantes qui présentaient les revendications. Malgré ça, la directrice du bureau de Montréal, de la ministre, a ordonné à tout le monde de rester au travail. Alors que nous, on était dedans, on faisait de la grosse perturbation. C'est pour dire à quel point on est ignoré. Et finalement, on est resté. On nous a menacé, évidemment, qu'on allait se faire arrêter. On nous a menacé qu'il allait appeler la police, ainsi de suite. Mais les 11 femmes qu'on était, on était tellement en colère, puis on savait qu'il y avait des milliers de femmes en arrière de nous qui étaient tellement en colère qu'on n'en pouvait plus de se faire niaiser par le gouvernement, un gouvernement vraiment, vraiment, vraiment violent à l'égard des femmes. Alors, on a décidé de rester. Puis, je pense que ce qui est même au moment de recevoir l'avis d'éviction, c'est-à-dire au moment où on est certaine qu'on va se faire arrêter parce qu'il n'y a plus de moyen de reculer, là, c'est vraiment le dernier moment, ben on a quand même décidé de rester parce qu'on trouve inacceptable que leur gouvernement refuse consciemment et volontairement de faire des choses concrètes pour améliorer les conditions des femmes. Bref, grosso modo, ce que le gouvernement est en train de faire, c'est de maintenir les femmes dans la pauvreté, de permettre, en les faisant pas, des mesures de prévention, de permettre que la violence envers les femmes, les meurtres des femmes, la violence conjugale, ainsi de suite, continue sans diminuer d'un poil, permet finalement un ensemble de choses qui nous font souffrir. Alors, il y a un ras-le-bol, on est en colère, on laisse plus ça faire et puis on change de moyen d'action.
Bon, c'est vraiment encourageant d'écouter et d'entendre combien d'actions et d'appuis ont reçu les revendications du mouvement des femmes. Et peut-être pour boucler et finir sur une note aussi encourageante, tu pourrais nous mentionner des activités qui s'en viennent dans les prochains mois pour le mouvement des femmes du Québec et quels moyens s'offrent aux gens qui nous entendent pour s'impliquer. Peut-être aussi.
Pour le mouvement des femmes, en fait, il y a vraiment plusieurs activités, là, je ne peux pas toutes les nommer, c'est un feu roulant d'activités. Il va y avoir bientôt, parce qu'un des éléments que je n'ai pas mentionné, que je vais mentionner rapidement, c'est qu'on n'est pas seulement méprisé comme féministe et par la gente politique, mais on est complètement méprisé par une grande partie des médias au Québec, qui font complètement la sourde oreille, il y a eu une couverture médiatique, mais ça a été une couverture médiatique qui a été forcée, et je ne sais pas si les auditeurs ont vu un peu comment la FFQ se fait, la Fédération des femmes du Québec se fait attaquer dans les médias depuis la Marche mondiale des femmes, pendant la Marche mondiale des femmes. On remet en question la crédibilité de la Fédération des femmes du Québec, on remet en question sa présidente, et ainsi de suite. Moi, je suis une féministe radicale, je suis pas une personne qui va s'identifier automatiquement à la Fédération des femmes du Québec, mais dans un climat, dans un contexte où on attaque les féministes et on attaque une grande organisation féministe au Québec, les féministes doivent se serrer les coudes et les défendre parce qu'on est sous attaque. Mais alors, donc, je disais ça parce que sous peu, à l'UQAM, à Montréal, il va y avoir une soirée, discussion, conférence sur le féminisme dans les médias. Alors, je suis désolée, j'ai pas la date et toutes les informations, mais c'est un événement qui est organisé par le réseau Études féministes de l'UQAM. Et donc, pour plus d'informations, je pense que vos auditeurs peuvent juste aller sur Internet, rechercher réseau Études féministes UQAM et vous allez voir l'annonce. Donc, c'est un panel, il va y avoir Stéphanie Maillé qui a fait un travail justement sur la représentation des femmes dans Châtelaine depuis plusieurs années. Il va y avoir Marie-Claude Lortie, qui est une pseudo-féministe libérale qui attaque la Fédération des femmes du Québec publiquement. Donc, ça devrait mettre du piquant. Il va y avoir deux autres panélistes.
Parfait.
Alors, ça, c'est un événement qui risque d'être très, très, très intéressant.
C'est très bien, Barbara. C'est malheureusement le temps qu'on avait. Nous vous remercions énormément d'avoir été avec nous et nous invitons donc aux radio-écoutes à suivre l'émission et avec...
Alors c'est malheureusement tout le temps qu'on avait pour En bas à gauche, on va vous laisser avec Le Bel Âge. Vous pouvez pour l'anti-hebdo, vous pouvez aller voir le site web de l'agenda militant.info et bien sûr vous pouvez retrouver le contenu de En bas à gauche sur le site de Radio Centre-Ville, mais encore mieux sur le site de En bas à gauche qui est enbasagauche.wordpress.com. Pour l'instant, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve la semaine prochaine avec encore plus d'informations, d'événements, d'analyses critiques et de choses à vous partager. Alors restez pour la suite de la programmation 102.3 FM. Radio Centre-Ville.
Radio Centre-Ville vous invite à faire connaître davantage vos produits et services. Vous êtes en affaires et aimeriez cibler certaines communautés de Montréal? Rien de plus simple. Nous vous aiderons dans la conception de votre message publicitaire et dans la stratégie à adopter pour vous adresser aux communautés que vous aimeriez rejoindre. Nous leur parlerons de vous dans leur langue maternelle. Ce sera donc personnalisé et fort sympathique. Radio Centre-Ville est à but non lucratif et nos tarifs publicitaires sont tout petits. Pour de l'information sur votre publicité à Radio Centre-Ville, rejoignez Daniel au 514-495-8836, 495-8836 ou à publicité@radiocentreville.com. Au plaisir de parler de vous sur Radio Centre-Ville.
Qui a voté, qui vote, qui votera, pour qui et pourquoi? La réponse à l'émission L'Histoire jugera. Tous les mardis matin, dès 8h.
L'émission La Réflexion, une émission traitant des sujets d'actualité nationale, internationale et régionale. Tous les mardis soirs, de 23h30 à minuit 30 sur les ondes de Radio Centre-Ville 102,3 FM, avec votre fidèle animateur Audney Estimé.
Travailler en français, c'est se respecter. C'est un droit. C'est créer de l'emploi. C'est payant.
Moi, je travaille en français.
Je travaille en français.
Travailler en français, c'est se faire respecter. Un message d'impératif français.
En matière de musique, Radio Centre-Ville vous fait voyager aux quatre coins du monde. Radio Centre-Ville, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.